En ce temps-là, le peuple auprès de Jean le Baptiste était en attente. Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. À cette époque, en gros, quelques dizaines d'années avant et après, il y a eu au moins 6 faux messies célèbres qui ont voulu faire un soulèvement armé contre l'Empire romain. Parce que cette époque historique correspondait aux prophéties de l'Ancien Testament, notamment du livre de Daniel, comme une période où le Messie devait venir, si bien que Jean-Baptiste est vu comme probablement le Christ, le Messie. Mais Jean-Baptiste nous montre Jésus, et ce baptême de Jésus est l'occasion pour nous pour approfondir qui est Jésus, quelle est son identité. Et puis nous verrons dans un second temps quelles sont les implications pour nous, par notre propre baptême. Le baptême de Jésus est une manifestation de son identité. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descend sur lui. Il y a la voix du Père qui vient du ciel et qui dit « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Nous avons donc la manifestation de Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas une invention des hommes, c'est une révélation du Nouveau Testament. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul être en 3 personnes différentes. Vous avez peut-être remarqué que, grâce à la nouvelle traduction du Missel, nous avons dans notre « Je crois en Dieu », notre credo, nous croyons en Jésus consubstantiel au Père. Alors, ce mot un peu technique, comme d'ailleurs le mot « évangile », au début peut nous paraître un peu bizarre, car ce n'est pas notre vocabulaire habituel. Pourtant, il est très important pour signifier l'identité de Jésus. Et je voudrais ce matin avec vous mieux comprendre cela. Au IVe siècle, Arius a proclamé cette hérésie, cette erreur, que Jésus ne serait pas Dieu, ou du moins serait une sorte de Dieu inférieur au Père. Et cette hérésie, comme un virus, s'est répandue dans toute la chrétienté, si bien que l'empereur est devenu arien, hérétique, et que même la majorité des évêques est devenue hérétique. Alors, quelle épreuve! Et des chrétiens ont donné leur vie pour garder cette foi que Jésus est égal au Père, qu'il a le même être, il est le même Dieu, bien qu'il soit une personne distincte. Et le héros de cette époque, saint Athanase, un évêque égyptien, a vécu de multiples exils, des persécutions pour la vraie foi. Mais comme l'Église a les promesses de la vie éternelle et que les portes de la mort ne peuvent pas prévaloir sur elle, eh bien, la situation s'est retournée. Ainsi, au Concile de Constantinople, l'hérésie arienne a été vaincue définitivement et a été introduite dans le « Je crois en Dieu », ce mot consubstantiel, même être. Alors, quel est vraiment le sens de ce mot? Nous avions, pendant quelques dizaines d'années, ces deux mots « Jésus de même nature que le Père ». Toutefois, cela est insuffisant pour dire qui est Jésus. Pourquoi? Parce que tous dans cette Église, nous avons la même nature, la nature humaine. Toutefois, nous ne sommes pas consubstantiels, nous n'avons pas le même être. Si j'ai mal au bras, par exemple, vous n'avez pas de mal au bras, car je suis un être différent que vous. Eh bien, nous sommes de même nature, mais nous ne sommes pas consubstantiels. Alors que Jésus, il est de nature divine, mais ce n'est pas tout. Il est le même être que le Père, il est la même substance, il est consubstantiel. Il n'a pas été adopté au baptême comme son fils. Il est fils éternel du Père depuis toujours. Quand il vient à la crèche, c'est déjà la deuxième personne de la Trinité qui existe, qui vient, qui prend un corps et une âme humaine. Ainsi, nous ne pensons pas, comme les musulmans, que Jésus est seulement un prophète. Ce n'est pas la révélation divine. Jésus est plus que cela. Nous ne pensons pas, comme les témoins de Jéhovah, qu'il serait Saint-Michel Archange, qu'il se ferait homme. Non, Jésus est plus grand qu'un ange. Jésus est Dieu lui-même. Et parce qu'il est consubstantiel au Père, il a une puissance divine infinie et il peut, par son baptême, transformer le baptême chrétien pour en faire un instrument efficace de la grâce pour nous rendre à notre tour enfants adoptifs de Dieu. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous avons les portes du ciel qui s'ouvrent comme Jésus. Devant lui, elles ont été manifestées ouvertes durant son baptême. Le baptême nous ouvre les portes de la vie éternelle et il nous donne la grâce pour nous transformer, pour nous faire ressembler à Jésus. La grâce, c'est l'aide de Dieu. Et nous avons des grâces ponctuelles, une guérison physique, une transformation, une conversion intérieure, une grâce pour vivre un service, une vocation. Ce sont des grâces qui sont données pour un moment, pour toute une vie aussi. Mais nous avons une grâce qui est comme un socle de toute notre vie chrétienne, la grâce du baptême, qui nous donne non seulement une grâce pour un moment, mais qui nous donne une grâce, un état de grâce, une grâce continue. Une grâce qui fait que nous sommes enfants adoptifs de Dieu, que si nous mourons dans cet état de grâce, nous pouvons aller alors au paradis. Nous savons que la création est une belle chose, mais saint Thomas d'Aquin disait que l'univers est inférieur en beauté à la grâce qui est mise dans notre âme. Si nous voyons l'invisible, si nous voyons notre âme en état de grâce, nous serions émerveilleux par la lumière divine qui y habite, par l'habitation de la Sainte Trinité dans notre âme, par la puissance de Dieu qui se réalise et qui veut nous donner sa joie, sa paix, sa charité. Cet état de grâce que nous recevons au baptême, qui est un immense don qui découle du baptême de Jésus, qui est venu donner la force au baptême chrétien, eh bien, nous sommes appelés le garder précieusement, à être fidèles aux promesses du baptême. Et si nous perdons cet état de grâce, eh bien, la confession est l'occasion pour nous de le retrouver. Qu'est-ce que c'est perdre l'état de grâce? C'est de faire un péché un peu sérieux qu'on appelle un péché mortel qui tue la charité dans notre âme. Quand le jeune homme riche demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» eh bien, Jésus rappelle les 10 commandements et ces 10 commandements qui marquent l'ADN de la vie chrétienne transformée par l'Esprit Saint. Et si nous péchons contre un des commandements, eh bien, cet état de grâce est perdu et c'est la confession, la miséricorde de Dieu qui le redonne. L'enjeu, en fait, est très grand, car c'est l'enjeu de la santé de notre âme. Et en préparant cette homélie, je relisais le testament du roi Saint-Louis à son fils. Et comme conseil précieux, il lui dit ceci. De préférer avoir les bras et les jambes coupés, même de mourir, que de faire un seul péché mortel. Car Saint-Louis avait conscience de cette beauté de l'âme en état de grâce, de cet enjeu de la vie éternelle. Et donc, il donnait ça comme conseil à son fils, lui, qui aurait pu donner des conseils multiples comme roi. Il y avait ça au centre de son testament. Et en cette nouvelle année, nous donnons des vœux de bonne santé du corps, et nous savons combien c'est important en ce moment d'épidémie, mais nous associons à cela la bonne santé de l'âme, cet état de grâce que nous recevons au baptême et qui peut nous donner la joie, la charité et la paix. Que la Vierge Marie nous donne de vivre cette année fidèle à notre baptême pour notre bonheur. Amen.